FM 93, les sports avec Ray Cloutier.
Si t'avais un quotient intellectuel plus élevé que celui d'un pâté au poulet, tu comprendrais peut-être.
C'est trop tard, la voix d'œuf.
Ah, pas grave, je l'aime tout le temps, celui-là.
T'es pris dans le tuyau.
Bon, Ray, je te sens épanoui, heureux. Et tout ça. Alors,
c'est un vent de renouveau, Stéphane, qui va souffler sur le Canadien.
Ils perdront plus.
Je sais pas. Bon, on va commencer par le résultat du match d'hier. Le Canadien a gagné 5-3 contre les Stars à Dallas, Texas. Début de Dvorak deux fois, 6e et 7e. Anderson, son 8e. Toffoli, qui faisait un retour au jeu, son 6e. Et Michael Pezzetta, avec son menton, son 3e de la saison, ont été les marqueurs pour le Canadien. Mais le gardien Samuel Montembeault était la grande vedette du match. Le Canadien a été dominé 51-22 au chapitre des tirs au but. Donc, vous comprenez que Montembeault a fait plusieurs arrêts et quelques arrêts spectaculaires d'ailleurs. 48 au total pour permettre aux Canadiens de freiner la séquence de 6 défaites de suite. Pour Dallas, Pettersson, Seguin et Pavelski, son 16e, ont été les marqueurs. Retour au jeu. Ouais, mais à domicile, ils ont une bonne fiche, mais ça va mal à Dallas. Tu vois, ils ont une fiche de 18, 16 et 2. C'est 500 à peu près, ça.
Ouais, mais c'est parce que dans les deux dernières semaines, là, ils n'ont pas gagné bien.
Pas moins bien.
C'est ça.
Radou ne joue pas. Radou a la COVID.
C'est la COVID, OK. Je pensais qu'il était blessé.
Depuis plusieurs matchs.
OK.
Mais il n'y a pas de bonne saison, Radou.
Non, c'est ça.
Il y a un but.
Un but? Attends, c'est tout. Tu es du genre à bougonner?
Oui, oh, oui.
Ah, oui.
Il doit pas être. Il doit être marabout.
Ouais. Hein.
Il est en fin de carrière, Radou, là.
Ouais.
Puis il n'a pas toujours fait attention à lui, là.
OK.
Mais il est quand même mi-trentaine, presque, là.
OK.
Il est en fin de carrière.
Y a-tu une petite bedaine ou.
Je sais pas s'il y a une petite bedaine. Il est devenu papa.
OK.
Ça, je pense que.
Ah, oui, il y a une fille qui l'a trouvé cute.
Non. Je peux aller jusque-là, là. T'es au Ovechkin des pères aussi, là. Don't forget. Ça, mais ça calme, hein? Ça calme le cheval un peu. Là.
Ouais,
c'est comme la réalité qui te frappe un peu plus là, quand tu prends tes responsabilités. Puis je pense que Radou est capable de prendre ses responsabilités.
Mais les Russes, c'est pas les plus lettres. C'est pas les deux plus lettres. Tu sais, mon joueur des Jets.
On n'a pas choisi d'être plus beau, là, par exemple.
Corey Connor.
Kyle Connor.
Kyle Connor.
Il est pas russe, lui.
Mais il est lettre en joie le vert, lui.
Yoel Armia a contracté la COVID pour une troisième fois en 10 mois. Un petit billet de 6,49 avec ça, mon Yoel. Et Cole Caulfield aussi a été placé sur la liste de la COVID-19 du Canadien qui poursuit sa séquence sur la route demain à Vegas et samedi contre l'Avalanche au Colorado. Mais aujourd'hui...
C'est vraiment Caulfield, il a acheté un test positif sur Internet. Ça me ferait du bien d'arrêter un peu.
Je sais pas comment vous dire ça, là, mais ça me ferait du bien.
Ouais. Ouais,
effectivement. Aujourd'hui, je suis curieux d'entendre pour une première fois Kent Hughes qui devrait rencontrer la presse. Et autour de 16h qui est prévu le point de presse en fin d'après-midi aux côtés de Jeff Gorton, le nouveau VP hockey du Canadien, et Jeff Molson, évidemment, propriétaire majoritaire du Tricolore. Vous savez maintenant, depuis hier, en fin d'émission, on l'apprenait que Kent Hughes est devenu le 18e directeur général du Canadien de Montréal. Puis hier, ben, à mesure que la journée avançait, on apprenait un petit peu plus de détails comment ça s'est passé, cette embauche de Kent Hughes. Ça a duré 2 mois, grosso modo, le processus d'embauche. Et Kent Hughes, je fais exprès là, pour prononcer le T parce que c'est Kent et non Ken. Kent Hughes, c'était le candidat de Jeff Gorton au début du processus. Il y a rien qu'un problème, c'est qu'au début du processus, Kent Hughes était pas intéressé. C'est pas montré intéressé par le poste de directeur général, malgré le fait que son chum, Gorton, ils se connaissent vraiment bien. Là. C'est des amis dans la vie de tous les jours. Ils se sont connus dans le monde du hockey, puis ils continuent à se côtoyer, s'entendent bien, tu sais. Il y a des gens avec qui les mentalités, ça clique, comme on dit, puis c'est le cas entre Gorton et Hughes. Donc, au début du processus, Gorton a demandé à Hughes si ça l'intéressait. Il a dit non, mais le processus s'est enclenché, le Canadien cherchant un directeur général. Puis c'est là qu'il y a eu une dizaine d'entrevues avec d'autres hommes de hockey, dont Patrick, dont Mathieu Darche, Daniel Brière, puis... À la fin, il restait quelques candidats, mais Jeff Gorton revenait régulièrement à la charge avec Kent Hughes en lui disant « T'es sûr, ça te tente pas, là? » Et le poste, il est là pour toi. C'est un peu ça qu'il a dit. Là. Je vous dis ça dans mes mots, mais ce qu'on apprenait hier, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, Hughes, finalement, est devenu le 11e candidat. Il a fini par accepter de jaser plus sérieusement avec Gorton. Puis, en fin de semaine, samedi, M. Molson est allé rencontrer Kent Hughes, qui habite la région de Boston depuis une vingtaine d'années. Et puis, c'est là qu'on a finalisé l'entente. Ça a duré, puis il y a eu un petit imbroglio en début de semaine. Le Martin avait mentionné pendant le match, c'était-tu lundi, en Arizona, qu'on allait peut-être apprendre le nom du directeur général. C'est qu'on voulait laisser le temps à Kent Hughes, qui est agent joueur, de faire ses affaires de son côté. Puis ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, semble-t-il, ça, d'avertir tous les joueurs. Bon, ben, j'ai pris la décision d'accepter le poste. Il va arriver telle affaire dans ton dossier. Lui, il voulait prendre le temps de jaser avec ses clients. Mais ça démontre le genre de personne qu'il est, Kent Hughes. C'est pour ça que c'est finalement hier matin que le Canadien a émis un communiqué. Moi, je pense que c'est une bonne acquisition pour le Canadien. C'est un contrat de 5 ans. Et Hughes voulait... Hughes, il change de côté de table. Là. C'est ça la réalité. Agent de joueur, tu négocies les contrats avec les directeurs généraux. Alors maintenant,
tu fais croire que lui, il est vraiment bon.
Ouais, c'est ça. Là, tu changes un petit peu. T'es de l'autre côté de la table. Donc, c'est un peu ça. C'est pas le premier à faire ça. Dans les exemples les plus notoires, il y a Pierre Lacroix qui l'a fait et qui a eu du succès comme directeur général. Il est passé du titre d'agent de joueur à directeur général. Brian Burke vient de ce milieu-là également. Par contre, il y en a d'autres que ça n'a pas fonctionné. Je me souviens d'un dénommé Barnett. Je pense qu'il était un des représentants de Gretzky à un moment donné dans les années 80. Lui, il avait accepté un poste de directeur général, puis ça a fait patate. Donc, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. On verra si ça marchera avec Kent Hughes. Mais une chose est certaine, c'est qu'il s'en va dans un environnement qu'il connaît déjà bien, en ce sens que Jeff Gorton, il le connaît très bien. Donc, les deux ont déjà des affinités. Ils se donnent des chances que ça fonctionne. Kent Hughes est agent de joueur depuis plus de 25 ans. Lui, c'est un ami, un très bon ami de Vincent Lecavalier et de la famille Lecavalier. C'est d'ailleurs comme ça que ça a commencé. Son histoire me fait penser un peu à l'histoire de l'agent de Laurent Duvernay-Tardif, là, Sacha Gavamy. Laurent Duvernay-Tardif est arrivé dans la NFL, puis lui, Sacha Gavamy est son chum, donc il a dit « je vais t'aider, moi ». Donc, c'est lui qui a pris la négociation. T'as fonctionné comme ça, toi aussi? C'est un de tes chums qui a commencé à négocier tes contrats.
Oui, mon premier agent, c'était Basbois. Là. C'est un gars que je connaissais depuis toujours. Il était resté chez nous. Lui, il avait joué au hockey. Il jouait au hockey pour Midget 3 à Sainte-Foy, dans le temps qu'il n'y avait pas l'équipe sur la Rive-Sud. Dans les années de Sainte-Foy,
C'était fort, c'était incroyable.
Puis Bas, quand il a joué Midget 3 à Sainte-Foy, il est resté chez nous. Puis après ça, ça a toujours été un ami.
Fait que lui, tu as confié tes affaires. Ouais. Tu vas aller me négocier.
Ouais, parce que moi, je m'entendais pas avec Devers. Fait que lui, il réussissait à bien s'entendre avec. Et ça a super bien été. Puis ensuite, c'est Patrice qui a pris la relève. C'est Patrice qui a changé de bord de table.
Oui.
Qui est passé du bord de propriétaire à agent d'artiste.
C'est ça. Agent d'artiste, oui. Agent d'artiste, c'est ça, Kent Hughes. C'est comme ça que ça a commencé avec la famille Lecavalier. Puis ensuite, son écurie est assez précieuse. Là, Patrice Bergeron, Anthony Beauvillier, Christopher Letang. Samuel Blais est représenté par Kent Hughes. Il y a plusieurs bons joueurs.
Ah, ouais, okay.
Il y a 21 contrats présentement dans la Ligue nationale de hockey. Et depuis quelques années, il fait partie d'une agence qui s'appelle Quartex. Eux représentent aussi des joueurs de basket. C'est très, très gros. La famille Saputo est derrière cette compagnie-là. Donc, c'est devenu majeur. Là. Kent Hughes est un joueur majeur dans le monde des agents.
Ces gars-là, là, à matin, ils appellent qui?
C'est Philippe Lecavalier. Au Québec, c'est Philippe Lecavalier.
Ça a-tu rapport avec le joueur?
C'est le frère de Vincent.
C'est le frère de Vincent, donc il est devenu un employé de ce gars-là.
Oui, Philippe, il est très bon. Okay. Il est très, très bon.
Okay.
Au Québec, c'est pas mal lui qui fait le travail. Il y en a peut-être d'autres qui sont plus dans l'ombre. Là, parce que lui, Kent Hughes, comme je te disais, il est Québécois de naissance. Là, parle très bien français, mais il est établi aux États-Unis.
Je comprends.
Établi à Boston. Ses gars jouent au hockey. Riley est repêché par les Rangers de New York. Et un autre de ses fils, Jack, est éligible au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Classé top 10 dans les meilleurs espoirs nord-américains. Il joue à l'université Northeastern. Très bon joueur, Jack Hughes. Attends, le même nom que l'autre, là.
Okay.
Deux Jack Hughes. C'est une famille de hockey. Kent Hughes, il a grandi dans le hockey. Ça a été un joueur correct, là. Tu sais, il a joué avec les Lions du Lac Saint-Louis, Midget 3, comme tu mentionnais, à son époque, il a 51 ans. Fait que, il était capitaine de son équipe. Ensuite, il est allé à l'université aux États-Unis, mais pas dans les grosses divisions, là. C'était division 3. Puis il s'est rendu compte rapidement que le hockey, s'il voulait jouer, là, ça serait pour le fun. Dans les ligues de Beden un peu plus, à un moment donné, il gagnera pas sa vie à jouer au hockey. Puis il a pris le virage image, comme je te dis, d'agent de joueur en représentant son bon ami Vincent Lecavalier. Puis il a fait son chemin. C'est un homme très respecté dans les cercles du hockey. Donc, j'ai bien hâte de le voir aller. C'est un gars du West Island à Montréal. C'est ça qui est ça, 16h aujourd'hui. Son premier point de presse officiel. À part ça, hier, Ligue nationale de hockey, on avait 8 parties au total à Boston. On a retiré le chandail numéro 22 de Willie Horry, qui n'était pas présent. Monsieur Horry est âgé de 86 ans. Et avec tout ce qui se passe, la pandémie puis la COVID, il a préféré rester chez lui. Donc, c'est sûr que ça a fait une cérémonie un petit peu moins grandiose. Mais il était là par de façon virtuelle, Monsieur Horry. Très touché par le geste des Bruins de retirer son chandail numéro 22. Il est maintenant âgé de 86 ans, Willie Horry. Mais son histoire est assez incroyable. Lui, on parle donc du premier joueur de couleur à jouer dans la Ligue nationale de hockey, fin des années 50. Okay. Lui, il jouait avec les As de Québec, ici à Québec.
Ah oui?
Lorsque les Bruins...
On relance-tu les As?
Les As, les Bulldogs, envoyez donc.
OK.
Toute la gang.
Fait que...
Il est rappelé par les Bruins pour jouer dans la Ligue nationale de hockey.
Mais les As sont pas nécessairement le club-école des Bruins?
Non, je crois
pas. Ils sont juste une ligue inférieure.
Oui. C'était pas aussi structuré que présentement, les clubs affiliés puis les clubs-écoles. Mais lui, il est rappelé des As pour jouer avec les Bruins de Boston. Puis c'est comme ça qu'il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Mais il joue pas longtemps dans la Ligue nationale de hockey. Il se fait traiter de toutes sortes de choses. Là. Okay. On est à la fin des années 50. Okay. Tu comprends que le racisme est très, très présent. Là.
J'essaie de voir, mettons, Jackie Robinson. Ben, j'ai vu son histoire, j'ai vu le film, évidemment. C'est en quelle année, ça?
On Jackie est Robinson, 1947. Puis là, tu parles de Jackie Robinson. Mais hier, on parlait de M. Horry, dont on a retiré le chandail, comme le Jackie Robinson du hockey. Donc, on est 11 ans après Jackie Robinson. Mais il a défoncé des portes pour les joueurs de couleur.
Puis c'était encore plus difficile, peut-être, pour le... C'était plus difficile pour le hockey, qui était plus blanc.
C'est ça.
Puis plus est, plus, je sais pas, là, comment dire ça, mais je comprends très, très bien que...
Déjà que sur une glace, on le sait que le chirping puis les insultes, il y en a. Là. Tu comprends que lui, il en a vécu pas mal.
Fait qu'il joue pas longtemps parce que...
Il jouait 45 matchs. Question de talent pour jouer dans la Ligue nationale de hockey, une ligue à 6 équipes, faut pas oublier. Et également, c'est moins su un peu, mais M. Horry, très tôt dans sa carrière, a reçu un coup de bâton dans l'œil droit, puis il a perdu la vue dans son œil droit. Il l'a pas dit à personne, parce que lui, son rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il a passé toute sa carrière de joueur avec un œil, il voyait pas de l'œil droit. Il a quand même joué une quarantaine de parties dans la Ligue nationale. Essentiellement, il a joué dans le hockey mineur. Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2018. Et il a joué jusqu'à l'âge de 43 ans. Il y a des championnats des marqueurs dans le hockey mineur. C'est un Canadien. M. Horry est né à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Et puis, voilà en gros l'histoire de Willie Horry. Mais c'est surtout qu'il a défoncé des portes. Puis il a traversé une période assez difficile.
Je me suis couché de bonne heure hier. J'ai écouté juste la première période. Mais est-ce qu'on a présenté à Dallas cette...
Oui, dans tous les amphithéâtres hier, on présentait, je pense, un petit extrait du retrait là, quand on voit le numéro 22 qui monte au plafond dans tous les amphithéâtres hier soir.
OK, dans tous ceux qui avaient des matchs hier, on a participé à ça.
Calgary l'ont fait aussi.
OK, parfait.
Oui, c'est ça. Voilà pour Willie Horry. Le numéro 22 devient le 12e.
Ils ont gagné, les Bruins,
mais non. Le 12e chandail retiré par l'organisation des Bruins. Ils ont perdu 7-1. Non seulement ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont mangé une sincère. Le Tuukka Rask hier, c'était plus compliqué un peu, là. 5 buts sur 11 lancés en première période.
OK.
Et puis, il a regardé le reste du match avec sa casquette au banc de l'équipe. C'est Ullmark qui est venu terminer la rencontre. Jesperi Kotkaniemi a marqué 2 buts dans ce match pour les Hurricanes. Ça lui en fait 9 cette saison, vous savez.
9 quand même.
Il faut être patient. Il serait meilleur buteur du Canadien.
Oui, effectivement.
Puis en fin de soirée, Philippe Dano, il a marqué son 10e, lui, dans une défaite des Kings.
Donc, Kotkaniemi serait 2e.
Oui, parce que Dano serait premier.
Ouais. Mais en même temps, Dano aurait peut-être pas 10 buts s'il jouait avec les joueurs qui jouent à Montréal.
Non, ça, c'est ça.
Tu sais, t'as recevoir des passes de Dauphin puis de n'importe quel autre, là, Pizzeria, là.
Pizzeria, ben non, c'est ça, tu comprends, là. C'est vrai, ça, Stéphane. Ce matin, Alexander Ovechkin est le meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey. On arrive quand même à la mi-saison. 27 buts et 55 points pour Ovechkin. Les Capitals ont gagné 4-3 en prolongation sur un but de Tom Wilson. Et puis, dans les matchs d'hier à souligner, il y a aussi la victoire de Calgary 5-1 sur les Panthers de la Floride. Les Panthers amorcent une séquence dans l'Ouest canadien avec ce revers. Kachuk, un but, 2 passes et Johnny Gaudreau, 4 passes pour les Flames. C'est Spencer Knight qui était devant le filet pour les Panthers de la Floride. Ils peuvent pas toutes les gagner. Non plus, là, les Panthers.
Mais dans l'Ouest canadien, est-ce qu'il y a du monde dans les gradins?
À moitié.
À moitié, eux autres, de monde? OK.
Ben, hier, ça avait l'air à moitié.
OK.
Calgary.
Fait que là, quelle est la situation dans la Ligue nationale? Il y a Toronto et Montréal où il n'y a pas de monde?
Ottawa.
Ottawa, c'est vrai, j'ai oublié Ottawa. Okay. Ouais, donc, l'Ontario et le Québec, actuellement, les amphithéâtres sont pas ouverts.
Ontario puis Québec.
Puis là, il y a de la pression pour ouvrir pour février, c'est ça?
Le Canadien doit jouer le 27, je crois, à domicile. C'est la semaine prochaine. Prochain match prévu au Centre Bell. Ils peuvent plus les remettre là, à un moment donné.
Non, je comprends. Ils peuvent en jouer un ou deux, pas de monde, mais pas plus. Pas plus.
Non, c'est ce qu'ils demandent là, d'avoir... C'est possible que ça fasse bouger les choses. On va être rendu fin janvier, début février. Tu vois, hier, les remparts ont repris l'entraînement, tout comme les autres équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Eux aussi sont en attente. Pour l'instant, c'est début février, la date de retour qu'on aimerait dans la Ligue junior majeure du Québec, mais on n'a pas le hockey non plus de la santé publique pour avoir des partisans dans les gradins, dans la LHJMQ.
Oui, mais justement, dans le junior majeur au Québec, là, à cause des reports, on doit revoir le calendrier de bout en bout. Est-ce qu'on devrait, tu sais, comme toi, tes prochaines games, tu devais aller dans les Maritimes?
Ouais, ce sera pas ça, je pense.
Oui, c'est ça. Hein, on devrait peut-être jouer au Québec pendant quelques semaines, puis quand eux vont débarrer, puis là, peut-être jouer ces matchs-là.
Je serais surpris que ça joue 68 matchs.
Ouais.
On essaye toujours de jouer 68 parties, mais là, tu vois, ça va faire un mois et demi qu'il n'y a pas eu de hockey. Là.
Okay.
C'est bien beau vouloir replacer des matchs. C'est le tournoi de la Coupe Memorial qui est comme le
buffer.
Buffer, merci. C'est là où tu ne peux pas te dépasser. Ça, c'est au début du mois de juin. Là, on est au début février. Tu vas jouer sûrement dans les séries, dans les matchs éliminatoires si tu veux jouer tes 68 matchs en saison. Mais c'est une question... ça devient une question économique aussi là, pour bien des marchés. Là, c'est bien complexe.
Mais tu pensais de nos enfants, comment ils ont hâte de jouer au hockey aussi?
Ben oui, c'est sûr.
Tu sais, je voyais Chikone, là qui a dit là, à un moment donné, le sport-étude a repris hier, lundi. Ben là, lundi, il y avait tempête.
Ouais.
Le sport-étude a repris en petit groupe. Je sais pas ce que ça veut dire en petit groupe. Là. Puis moi, j'ai vu passer des emails comme de quoi que le hockey mineur aussi, des pratiques en petit groupe allaient être autorisées. Là. J'ai pas...
Un nombre restreint, là, ça ne doit pas...
C'est ça. Mais là, il faut que...
Faudrait que ça reparte, hein? Ça serait une bonne idée. Deux, trois choses en terminant. La Ligue nationale de hockey va imiter la NBA et la NFL et va cesser de tester les joueurs vaccinés asymptomatiques après le match des étoiles. Ça, c'est déjà le cas dans la NBA et dans la NFL. On ne teste plus les joueurs ou les membres des personnels qui sont asymptomatiques. Donc, ça fait évidemment moins de cas en bout de ligne en agissant de cette façon-là. Au tennis, Denis Shapovalov a gagné la nuit dernière contre le Coréen Sun Woong-kwon, semé 54e au monde. Shapovalov est 14e. Ça a quand même pris 5 manches et 4h25 pour le Canadien pour l'emporter. 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 et 6-2. 29 as pour Shapovalov.
Mais quand il arrive à l'hôtel, lui, sa blonde, il dit « On va-tu prendre une marche?
»
Joue au tennis pendant 4 heures.
Ouais.
Chérie, t'avais 4 heures pour y aller marcher dans le quartier.
C'est sûr.
Me semble, me crisserais-tu à la paix?
Genre, on va y aller demain.
Ouais, mais on fait jamais rien, là-bas.
On fait jamais rien ensemble.
Ouais.
Fait 4h30 que je fasse des
balles. Chapeau valeur.
Je sais pas ça.
Vous non plus.
On connaît pas cette situation-là, mais ça a fini autour de 4h cette nuit, à notre heure, le match de Shapovalov. Félix Auger-Aliassime lui sera en action plus tard ce soir contre un Espagnol du nom de Davidovich Fokina. Et dans la NFL, bien, on se prépare pour la deuxième fin de semaine des éliminatoires. 4 matchs, Cincinnati-Tennessee, San Francisco-Green Bay, les Rams contre Tampa Bay et Buffalo contre Kansas City. Je termine avec une petite statistique, un petit fait.
J'en ai deux, moi, statistiques. De la NFL. Ben, une, c'est de la NFL, puis l'autre, c'est autre chose.
Tom Brady est âgé de 44 ans, donc vous le savez, c'est le plus vieux carrière dans la NFL. Mais il reste 4 équipes dans la conférence nationale, donc Tampa Bay, Green Bay, les Rams et les 49ers de San Francisco. Tom Brady, carrière, est plus âgé que les 3 autres entraîneurs-chefs, pas les 3 autres quarts, les 3 autres entraîneurs-chefs des équipes de la conférence nationale.
Kim, c'est hot,
c'est là
ça.
Qu'on est.
C'est très hot. Moi, ce que j'ai comme statistique, c'est les victoires par les équipes dans les séries éliminatoires.
Oui.
Les Patriots viennent au premier rang avec 37 victoires.
Depuis quand, ça? Depuis tous les temps?
Oui, depuis tout le temps. Most postseason win in the NFL history.
Yes, sir.
Donc, Patriots, 37 victoires. Les Packers ont 36 victoires. Eux vont assurément passer au premier rang. Les Steelers, 36 victoires. Les Cowboys, 35 victoires. Et
les Niners.
Qui vient au cinquième rang?
Tom Brady.
Avant Tom Brady, à lui seul. Ce qui Moi, il m'a fait dire hier, moi, Belichick, là, les deux, tout ça, mais ça reste que 34 des 37 victoires d'une série des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady. Fait que Tom Brady en a 34.
Il y en a, avec les Pats, parce qu'il y en a 5 avec les Buccaneers.
Il y en a combien?
5 avec les Bucs.
5 avec les Bucs, OK. Bon, là, faut, donc, il y en a, c'est pas
mais
les...
Mais il y en a 34 pareil.
Il y en a 34 pareil. Fait qu'il va assurément dépasser les Cowboys. On verra.
C'est exceptionnel.
Tes prévisions ton idée, tu es pas mal faite pour les gagner dans la fin de semaine?
Oui.
Ah oui?
Oui.
Vas-y donc voir.
Les matchs vont être serrés, là. Ça va être, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je prends Tennessee, Green Bay, les Rams pour battre Tom et les Bucks, je pense.
Ah ouais.
Oui.
Ah ouais.
Puis je vais continuer avec Buffalo.
Ben, on a été pris avant que la saison commence. Fait que, et on veut encore féliciter Éric Trépanier.
Bonjour.
Qui a gagné le pool, trompe-toi pas. Puis en passant, lundi, il a eu son score. Fait que Trépanier, Éric, 18 bons résultats en saison régulière et 6 bons résultats pour les matchs de wildcard.
Oui.
Fait que c'est exceptionnel. Il gagne 1 000 $ de produits Budweiser. Une journée avec Luc Santerre, s'il veut.
Ah oui?
avec la COVID, c'est un peu beau. Fait que, plusieurs cadeaux qu'il aura à choisir lui-même pour le Grand Prix. On va mettre tous ces gens-là en lien, bien sûr. L'autre statistique que j'avais, c'était les franchises qui ont jamais gagné de championnat. Ou le plus long, pas jamais, mais dans tous les sports confondus.
Les Leafs.
Il y avait plus vieux que ça, puis je le savais pas. L'Arizona. Les Cards de l'Arizona, dans la NFL.
Mais ça, c'est les anciens Cards de Saint-Louis aussi, là.
Ouais, c'est ça que je me demandais. Okay, est-ce qu'ils fonctionnent avec le nom de l'équipe ou avec la ville?
La franchise.
Avec la franchise, OK. Tu sais, parce que, mettons, Minnesota Hockey, est-ce qu'ils ont déjà gagné la Coupe Stanley?
Les North Stars, non.
Les North Stars jamais.
Non,
le Wild non plus.
Le Wild, c'est sûr que non.
Fait que, tu sais, mais en même temps, c'est une nouvelle équipe. Fait que, mais les franchises qui existent. Donc, les Cards d'Arizona, les Cards, qui ont été Saint-Louis, Arizona, il me semble qu'ils ont été une autre ville, non?
Non.
En tout cas,
Saint-Louis, c'était dans l'ancienne NFL. La NFL, la fusion de la NFL a eu lieu en 1966. Les Cards d'Arizona sont nés, c'est assez récent. Là, que
ben,
les Cards,
c'est 1947, en tout cas, la dernière victoire d'un championnat des Cards.
C'était à Saint-Louis.
Maintenant, par contre, là, ça, c'est très mesurable. C'est les Guardians de Cleveland qui sont devenus les Indiens de Cleveland. Eux autres, ils n'ont pas gagné depuis 1948. Donc, c'est un an de plus. Ensuite, les Knights de Sacramento, eux, est-ce qu'ils ont changé?
Les Kings.
Les Kings, excuse-moi, les Kings.
Sacramento, je crois pas que c'est d'origine, ça, là.
C'est 1951 qu'ils ont pas gagné le championnat, ou soit jamais, ou en tout cas, c'est ou l'année de fondation, c'est 1951.
C'est vrai qu'ils ont jamais une bonne équipe, eux autres, hein. Tu sais, des fois, t'as des creux de vague, mais l'équipe remonte un peu. Genre, les Sénateurs, ils ont déjà eu une bonne équipe. Mais les Kings de Sacramento, on dirait qu'ils sont jamais bons.
Dans la NBA, là. Hey, regarde les Pelicans de la Nouvelle-Orléans.
Pelicans.
Ils ont eu la sensation. Ça marche pas bon tout.
Zion est blessé encore. Ses chevilles supportent pas son poids. Il est pas en grosse forme.
Okay. Mais mettons là, les Timberwolves.
Ils sont pas mal meilleurs sur la plage, les Pelicans.
Ouais. Les Timberwolves du Minnesota, d'après moi, ils ont jamais gagné.
Non.
T'as parlé des Kings de Sacramento. Tu sais, il y a des franchises dans la NBA qui ont jamais gagné rien.
Ouais.
C'est pas compliqué, là. Puis t'as des plus petits endroits comme, tu sais, les Spurs de San Antonio, ils ont eu des années incroyables, puis c'est pas une grosse place.
Ça a été
une dynastie.
Oui.
Et pour
les Packers de Green Bay, quand même. Les Packers avec Green Bay, c'est pas gros, là.
C'est ça.
Green Bay est plus gros que Green Bay, je pense.
ça me fait vraiment plaisir d'ajouter à cette liste les pitoyables Maple Leafs de Toronto.
Ouais, mais ça achève.
Depuis 1967.
Cette séquence-là achève.
Mmh. Oh, non. Pourri. Pourri.
Ben, pas pourri, là.
pas pourri.
Moi, être Patrick Roy, là, c'est sûr que j'appelle à Toronto. Je veux être DG ou coach, moi. Ils m'ont pas pris à Montréal. Moi, vous montrer, moi, ce que c'est.
Ou Boston.
Fait que, non, pas Boston, là, tu sais.
Floride.
Au Canada. Ou en Floride.
En Floride. Je pense que ça le toucherait beaucoup.
Il n'y a pas assez de vibe, il n'y a pas assez d'intérêt.
Oui, mais là, il y en a.
Il y en a, mais
les billets
pas.
Sont chers, Patrice, là.
Ouais.
J'aurais dû y aller dans le temps des fêtes. C'était pas donné.
Comment t'as payé, mettons?
On aurait payé 75, puis on n'était pas près de la patinoire.
Okay.
Là. C'est une place où on aime ça aller là. C'est comme la deuxième portion de siège, là, puis de l'espace en arrière. T'arrives direct dans la coursive.
Ah oui, OK.
Tu vas te chercher une petite consommation.
Petit Papa Jones, hein?
C'est ça.
Benza.
J'aime ça être assis là. Cool. Mais ça coûtait 75$,
c'est ça, les prix montent. Pendant ce temps-là, à Dallas, hier soir, notre chum Gauvin, lui, paye 12$ qu'il a payé. Il avait des billets à 7, mais lui, il a payé 12.
Aye. Fait que,
C'est gâté. Ah, oui, c'est upgradé lui-même.
Et l'us d'indépendance.
Fait que, il y avait quand?
On annonçait 17 600 hier à Dallas, mais il y avait des trous, là. On regardait le match, là. Il y avait des trous dans le gradin.
Ouais, il y avait de la place, hein.
Pas beaucoup de masques.
Ben, il y en avait. Moi, j'ai trouvé durant la présentation de Rory, là, on a vu du monde dans les estrades applaudir, puis je trouvais que... Puis je me demandais, puis dans la NFL aussi, c'était une question que je me posais. Tu sais, comme par exemple, dans la NFL, tu regardes sur le banc des joueurs, puis des fois, il y a un coach ou deux qui portent le masque. Oui. C'est-tu parce qu'ils sont pas vaccinés?
Ben, peut-être pas, ou ils sont plus... ils ont plus peur un petit peu de l'attraper compte tenu de leur santé, là.
OK.
Des fois, c'est ligne de côté. Ils sont pas tous dans une forme exemplaire non plus.
Ouais, je comprends. C'est pas toujours parfait.
Et si je me trompe pas, hier, les coachs des Stars avaient pas de masque, puis Dominique Ducharme puis sa gang avaient des masques.
Tu veux?
Il me semble.
Mais je sais qu'en Arizona, Dominique Ducharme n'avait pas de masque. Ah. Ça, je l'ai remarqué.
OK.
Mais, puis la fille, assise en arrière du banc, avait une très mini-jupe.
Okay.
Ça, j'ai remarqué.
En Arizona.
Ça. Mais j'ai pas vu si la fille avait un masque.
Non, mais ça, c'est...
Mais j'ai vu qu'elle avait une très
mini-jupe. La caméra va pas tout le temps partout.
Non, c'est ça, c'est ça. J'ai déjà passé une game de baseball à voir rien que ma bédaine à la TV. Oui. C'est vrai. À la fois, j'étais allé au Red Sox avec Bob. On était à 4 rangées en arrière du catcheur, mais on nous voyait pas à face. Fait que... Mais on arrivait avec quelques breuvages. Ben, deux, hein, parce que c'est limité à deux.
Oui.
Puis on les mettait à terre. Parce qu'on le mettait celui qu'on était en train de consommer dans le cup holder, puis l'autre de sphère, à terre.
C'est de la gestion, là.
Mais nous autres, on le sait pas qu'on a rien que les bédaines qui passent à la télévision.
Ouais.
Parce que la caméra, quand elle filme le receveur, on ne voit pas la. Mais quand Bob se penche,
là, on
prend sa
face.
Bière, on y voit à face.
Ouais.
Fait que là, les textos commencent. Tudoum, 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 tudoum.
Vous êtes là.
Fait que on passait la moitié de la game penchée, la face sur nos genoux.
Commentateur.
On passer...
Look on at that belly on the plate. Wow!
C'était à peu près ça. Il faisait assez fret. Puis on était là. Ils ont arrêté de vendre de l'alcool à la 7e manche. Et puis, ils ont joué 14, je pense.
Ih.
Ah ouais, on avait la langue comme une truite, ça se fête.
T'es parti.
Hein?
T'es pas resté jusqu'à la fin.
Oui, oui. Oui, oui, on aimait ça, le baseball. Et on allait là pour voir du baseball. On est allé voir 2-3 games. C'est pas longtemps après l'attentat du marathon de Boston.
Puis vous avez été obligé de boire de l'eau, Arc?
Oui. Oui, mais après ça, on est sorti.
C'est correct?
On est sorti, puis là, les bars, c'était comme Lascaux.
OK.
On les a fait tout à Lascaux.
Oh, oui.
On a collé quasiment pour toute la barre.
Bon, ouais.
Fait que, bon.
OK.
Salut la gang, quelqu'un qui nous salue sur Twitch. Salut vous autres. OK, on s'arrête là-dessus. Vous êtes dans Dupont le matin.